La rencontre des croyants et priants musulmans, c'est le thème de la conférence de Mgr Vincent Landel, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus de Bétarham et archevêque émérite de Rabat au Maroc. Une conférence organisée par la paroisse du Christ Sauveur à Pau le 10 février 2022. Nous écoutons la présentation de Mgr Vincent Landel par l'abbé René-Sébastien Fournier.
Bien, bonsoir à tous et bonsoir à vous, Mgr. Rapidement, pour vous présenter aux fidèles, vous êtes né le 25 août 1941 à Meknès au Maroc et vous y avez vécu jusqu'à vos 18 ans. Puis vous avez été licencié en enseignement de mathématiques, physique et chimie de la Sorbonne et vous avez été ordonné prêtre le 29 juin 1969 pour la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétarham, autrement appelé les Bétarhamites. Au cours de cette même année, donc 1969, vous prenez la charge de directeur du lycée Charles Le Foucault à Casablanca, et ce pendant 13 ans, jusqu'en 1982, date à laquelle vous quittez le Maroc pour retourner en Europe, principalement la France et l'Italie. Puis vous avez été nommé archevêque ou adjuteur de Rabat au Maroc le 3 décembre 1999, et vous avez été consacré évêque le 26 février 2000. Vous succédez à Mgr Hubert Michon, et vous devenez ainsi archevêque de Rabat le 5 mai 2001, et par ailleurs, vous avez été nommé président de la conférence épiscopale régionale du Nord de l'Afrique. Le 9 septembre 2014, vous êtes nommé par le pape François, père synodal, pour la troisième assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille, qui s'est déroulée du 5 au 19 octobre 2014, en qualité de président de la conférence épiscopale régionale du Nord de l'Afrique. Et le 29 décembre 2017, le pape François a accepté votre démission pour raison d'âge, et a nommé le même jour votre successeur, le salésien espagnol Cristobal López Romero. Quand vous étiez archevêque à Rabat au Maroc, il y avait à peu près 30 000 catholiques, tous des étrangers. Et avant l'indépendance du Maroc, il y avait beaucoup plus de catholiques qu'aujourd'hui. Ils étaient pour la plupart originaires de France, d'Italie et d'Espagne. Et aujourd'hui, les catholiques du Maroc sont pour la majorité originaires d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, puisqu'il est interdit, selon la constitution marocaine, d'être marocain et non musulman. L'autre caractéristique de la communauté chrétienne au Maroc, c'est sa mobilité, puisque chaque année, 20% de cette communauté se renouvelle, s'agissant de fidèles de passage au Maroc, principalement des expatriés et des étudiants. Et ce soir, vous allez donc nous parler de Saint Charles de Foucault en terre d'islam.
Merci. Peut-être pour préciser les chiffres que vient de donner le Père. Donc, avant l'indépendance, en 1956, il y avait 500 000 chrétiens au Maroc, tous essentiellement espagnols, italiens ou français, et il y avait 9 millions d'habitants au Maroc. Maintenant, il y a 34 millions d'habitants au Maroc et nous sommes 30 000 chrétiens de tous les pays d'Afrique, de beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et d'Europe. Et puis, alors, depuis quelques années en plus, le Maroc est un pays de transit pour les migrants qui veulent rejoindre l'Europe par ceux qui passent au Maroc, ils vont rejoindre par l'Espagne, hein, mais ceux qui sont en Algérie, ils vont rejoindre par l'Italie. Et ceux qui sont en Libye, ben, ils essayent tout ce qui est possible. Et donc, ce soir, on m'a demandé de vous parler un petit peu du lien entre Charles de Foucault et l'islam. Alors, au début de Charles de Foucault, ben, puisque vous avez déjà entendu parler de lui avec l'abbé Huvelin, hein, donc l'abbé Huvelin a été une grande étape dans sa vie. Mais il y a une étape avant l'abbé Huvelin et une étape après l'abbé Huvelin. Hein, mais c'est surtout l'étape après l'abbé Huvelin où il y a eu une présence de Charles au monde musulman. Alors je crois qu'il est important de situer Charles de Foucault, hein, d'abord sur un plan politique. Hein, sur un plan politique, il est né en 58. Donc vous voyez, il y a pas mal. Hein, dans quelques temps, il y aura la guerre de 1870, et puis après, il meurt, c'est juste après la Première Guerre mondiale, ou pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'était des moments politiques pas faciles à vivre pour lui. Et pas facile à vivre pour lui, surtout, qu'il a été très vite orphelin. Il était d'une famille riche, aristocratique d'Alsace. Il est né à Strasbourg en 1858. Mais à l'âge de 5 ans, il perd et sa maman et son papa. Et donc, avec sa petite sœur, Marie, il va être éduqué, confié à son grand-père maternel, qui était colonel à la retraite, et qui habita après avec eux à Nancy. Et justement, à cause de ces faits de guerre, au lieu de rester à Strasbourg, ils sont allés s'installer à Nancy, où il a pu faire des études, je dirais, relativement sérieuses à ce moment-là, jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il était très riche, et donc ses études, elles sont périclitées. Donc, puisque après ses études, il a fait Saint-Cyr, c'était normal, son grand-père était colonel, donc c'était la filière. Et puis après, il a fait Saumur, mais il s'est débrouillé pour être arrivé le dernier de sa promotion. Donc, c'était pas ses copains trouvaient en lui plutôt un fêtard qu'un travailleur. Et dans ce moment où il a fait ses études, où il est devenu militaire, il est allé à Pont-à-Mousson, et depuis Pont-à-Mousson avec sa garnison, il est allé envoyer en Algérie. Donc rappelons-nous à ce moment-là aussi que l'Algérie était française, c'était ce qu'on disait à l'époque, donc était française, au moins les trois départements du Nord, c'est-à-dire Constantine, Alger et Oran, et il y avait le Sahara, qui était un immense terrain, immense terrain, qui essayait d'être pacifié par l'armée, par rapport aux Touaregs, et surtout après, c'est dans les années suivantes, avec les années de découverte du pétrole, et puis alors un peu plus tard aussi, ça a été les années qui posent encore des questions aujourd'hui, où il y a eu les premiers essais nucléaires en Algérie, donc qui posent aujourd'hui des questions. Bon, nous ne rentrons pas dans ces histoires politiques, mais on va... donc il est parti à Oran, mais à Oran, avec son armée, avec son bataillon, il a été renvoyé dans ses foyers. Il était trop indiscipliné. Et il continuait à faire la fête. Et surtout qu'il est venu avec sa copine Mimi. Alors il n'était pas question de rentrer à la caserne avec sa copine. Donc il a été renvoyé en France. Et puis il s'est un petit peu assagi en France. Et il a décidé de retourner dans l'armée, tout seul cette fois-ci, pour essayer de rentrer dans le monde de l'armée, qui était en contact plus qu'étroit avec les musulmans. Et donc il a transformé son temps d'armée, au lieu de prendre les fusils, il l'a transformé en un temps de pénétration de la culture arabe. Il s'est mis à apprendre l'arabe. Il s'est mis à apprendre l'histoire de tout ce peuple arabe, de toute l'Afrique du Nord. Il s'est mis à apprendre leur culture et donc se sensibiliser à tous ces hommes et ces femmes qu'il rencontrait dans toutes ces villes du nord de l'Afrique, où là, c'était un arabe pour les trois départements du nord, c'était le même arabe, donc c'était plus facile. Alors que tout à l'heure, nous verrons, quand il est allé dans le désert, il fallait qu'il parle en touareg, donc c'est-à-dire encore une autre langue. Mais ça ne lui a pas fait peur, puisque même il s'est mis à apprendre l'hébreu, nous le verrons là aussi tout à l'heure. Donc tout ça pour nous dire que dès le début où il est arrivé en Algérie, il s'est laissé sensibiliser par ce monde arabe, et donc ce monde de l'islam. Et à ce moment-là, lui, il ne croyait plus beaucoup, il croyait à son argent de poche. Le reste, c'était plus sa question, Dieu ou pas Dieu, Jésus ou pas Jésus, c'était pas sa question. Et donc, voyant quand même que l'armée vivait des choses importantes dans ces pays, il a fini par démissionner carrément de l'armée, pour devenir libre. Alors, il pouvait le devenir très facilement, puisqu'il avait de quoi vivre. Mais alors, il s'est installé à Alger. À Alger, avec l'aide de deux explorateurs, il a préparé un voyage d'exploration vers le Maroc. Parce qu'il s'est rendu compte que le Maroc, qui lui, n'était pas français. Le Maroc était encore sous la gouverne des différentes tribus marocaines qui se tapaient dessus les unes les autres. Et il s'était rendu compte aussi qu'au Maroc, il y avait sur la côte la possibilité pour des Européens de venir s'installer ou faire du commerce, tandis que dans la montagne, il était hors de question. Hein, hors de question dans l'Atlas de pouvoir trouver un Européen. Donc il a fait un petit peu son programme de vie, hein, en se disant, ben, je vais aller découvrir le Maroc. Et donc là, il a pris une année pour pouvoir aller au Maroc. Mais s'il y allait en tant que Français, il s'est dit, ça ne va pas marcher, hein, parce que les Français étaient un petit peu trop des colonisateurs par là, hein, donc on ne voulait pas trop les voir. Hein. Et donc, il s'est déguisé en rabbin, hein, le rabbin Joseph Allemand, on l'appelait. Et alors, pour faire couleur locale, il s'est mis à apprendre l'hébreu. Donc, comme ça, on pouvait croire qu'il était rabbin. Et puis, pour vraiment dire qu'il n'était pas français, il faisait exprès de ne pas parler bien français. Donc, il jouait la comédie pour pouvoir vivre cette découverte d'une population que, par intuition, il voulait absolument découvrir et vivre avec. Et alors, pour partir dans ces montagnes de l'Atlas marocain, hein, il a pris un guide, Mardoché, qui était lui un rabbin qui était né dans le fin fond du sud marocain. Donc il connaissait bien ces montagnes. Et alors, pour vous expliquer pourquoi il y avait des Juifs déjà au Maroc, hein, c'est que les Arabes ne sont arrivés qu'après Mahomet, donc au 7e, 8e siècle. Hein. Et donc avant, les indigènes n'étaient pas musulmans. Hein. Donc les indigènes avaient accueilli dans le Maroc des Juifs. Et ce qui fait qu'en 1956, à un moment de l'indépendance, il y avait 300 000 Juifs. Alors qui, eux, à la différence des Européens, tous ces Juifs étaient Marocains, de nationalité. Et pour se protéger un peu quand les musulmans sont arrivés, ils sont allés se réfugier dans la montagne. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a de très nombreux restes de villages juifs, parce que les juifs de 300 000 en 56, ils sont 3 000 aujourd'hui. Hein, parce qu'ils sont tous partis, enfin tous, la plupart sont partis au moment de l'indépendance du Maroc. D'abord parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des grandes amitiés entre les juifs et les arabes sur un plan politique. Et puis surtout à l'époque, c'était le début de la création de l'État d'Israël. Donc il y avait cet appel, ce qu'on appelle l'Alia, je crois, hein, d'Israël, pour que les Juifs du monde puissent venir en Israël pour peupler la Palestine. Et c'est pour cela que si vous avez l'occasion d'aller en Palestine, vous verrez que beaucoup de Juifs parlent français. Ce sont tous des Juifs qui, enfin tous, la plupart de ceux-là, sont des Juifs originaires du nord de l'Afrique. Et qui ont refait leur petite communauté, leur fraternité dans ces pays. Donc le Maroc était ce pays que voulait découvrir Charles. Mais alors il fallait le préparer, il fallait préparer ce voyage. Donc il s'était rendu compte quand même qu'il avait des capacités intellectuelles et qu'il avait quand même appris des choses à l'armée. Donc il s'est plongé dans la géographie du Maroc, dans l'histoire du Maroc, dans la culture du Maroc, dans la religion du Maroc, pour essayer de comprendre et puis de passer plus ou moins incognito dans sa traversée. Mais ce n'est pas nouveau, c'est encore aujourd'hui, mais entre l'Algérie et le Maroc, c'était déjà la guerre. Donc on ne pouvait pas passer directement de l'Algérie au Maroc. Donc ce qui fait que Charles a pris le bateau à Nemours, qui s'appelle aujourd'hui Erzaouet, hein, qui est à la frontière, une petite ville, un petit port à la frontière algéro-marocaine. Il a pris le bateau et il est allé sur Algésiras. Sur Algésiras parce qu'il ne pouvait pas, un étranger ne pouvait absolument pas circuler dans le Rif, c'était beaucoup trop dangereux. Et donc d'Algésiras, il a repris le bateau pour aller sur Tanger. Et il a commencé son voyage à pied, son voyage de plus de 5000 km à pied, avec Mardoché, à partir de Tanger. Et là, vous avez petit peu la carte, si vous avez des bons yeux, hein, sur la photo qui est en haut, hein, le son parcours. Hein, donc il y a l'Atlas qui est au centre. Et puis on voit un petit chemin noir autour de l'Atlas, entre l'Atlas et l'Atlantique. Hein, donc il est parti par ce côté, c'est-à-dire entre la montagne et la plaine côtière. Et pour revenir, il a pris l'autre côté, entre la montagne et le désert. Hein, donc il a fait vraiment tout le tour de l'Atlas pour pouvoir découvrir ce Maroc. Et alors, il était tellement pris par cette population musulmane, hein, par ces gens nouveaux qu'il découvrait et qui n'avaient été visités par personne, qu'il se faisait inviter. Alors il se faisait inviter ou bien par des familles musulmanes, ou bien par des familles juives, hein, en essayant de ne pas se trahir, hein, même s'il y a deux ou trois fois des gens ont découvert qu'il était chrétien, qu'il était européen plutôt, hein, et qu'ils l'ont vite, ils ont fait attention à lui en se disant c'est un espion. Hein. Mais tous les soirs, dans le bivouac où il se trouvait, il sortait ses instruments de travail, qui étaient la boussole, le sextant, la carte, pour exactement savoir où il était, et il faisait des petits croquis. Hein, et des petits croquis qui sont très, très réalistes. Hein, comme ça, il croquait tous les chemins qu'il y avait à travers cette montagne, mais en même temps, toutes les constructions, toutes les mosquées, toutes les synagogues, hein, donc avec un travail très, très minutieux. Hein. Et si un jour vous avez l'occasion de lire son livre, hein, qui est un gros pavé comme ça, hein, où il raconte tout son voyage, il y a les croquis de toutes les étapes où il était. Et vous verrez comment ces dessins sont très très précis et ont pu servir, je ne vais pas dire à l'armée pour continuer ses recherches, hein, mais à la découverte de ce monde arabe. Bon, et là, au fond, dans la région d'Agadir, c'était pas encore très très pacifié, il y avait beaucoup de brigandage, hein, et donc certaines familles ont été obligées de l'escorter pour continuer son chemin, parce que en tant qu'étranger, on se dit il doit avoir de l'argent, et donc on le dépouillait de tout. Alors ce qui fait que quand il est arrivé à Agadir, il n'avait pratiquement plus rien, et il voulait quand même continuer, donc il est allé à Mogador. Et ça où ira aujourd'hui. Donc dans cette ville de Mogador, où il y avait un consul français. Un consul français qui l'a aidé à retrouver un petit peu d'argent. De toute façon, il avait de l'argent en plus. De retrouver un petit peu d'argent et de recontinuer son voyage. Alors comme je le disais tout à l'heure, par l'est de l'Atlas, hein, donc en longeant le Sahara. Et tout ça, il le faisait à pied, avec un petit âne pour porter quelques bagages. Bon, alors tout ça, ça lui a permis de découvrir ce pays et d'être heureux parce qu'il se sentait utile. Il sentait que ce qu'il faisait n'était pas de l'armée, apprendre à tirer, apprendre à tuer, hein, apprendre à se digérer, apprendre à l'usage de la boussole. Et donc tout ça, il fallait que sa vie prenne un sens. Donc parce qu'il a été content de lui, parce que sa vie prenait un sens pour les autres. C'était un garçon qui était tourmenté, surtout depuis la mort de ses parents, qui avait une grande soif de combler le vide, un vide intérieur qu'il avait. Et il voulait une expérience forte de risque. Et donc là, cette expérience forte de risque, il l'a eue pendant un an dans ces montagnes de l'Atlas marocain. Il avait une soif de réussir un projet personnel, une soif de l'absolu. Et c'est de là que, à la fin de sa vie, la soif qu'il avait, c'était une soif d'amour, hein, qui va le transformer. Mais alors, en même temps, sur ces routes marocaines, il a découvert des gens qui priaient. Il a découvert des mosquées, Il a entendu tous les jours et toutes les nuits le chant du muezzin qui appelait à la prière. Il a découvert que les gens s'arrêtaient de travailler pour prier ou se levaient la nuit pour prier, donc ça du côté musulman. Mais il est rentré aussi dans des synagogues où il a vu les juifs prier. Donc il s'est posé des questions sans avoir de réponse. Il s'est posé des questions en disant, mais il y a quand même ici toute une population pour qui la prière a un sens. Et moi, j'ai été baptisé, c'est vrai, mais tout ça, je n'y crois pas beaucoup. Donc, mais il s'est quand même posé des questions. Il s'est posé des questions sur sa foi, en se demandant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, à quoi sert leur prière. Et donc, il a continué son périple du Maroc, finissant ses 5000 km à pied avec un âne. Et pour pouvoir assez d'argent pour terminer, il a vendu son âne. Parce qu'il n'avait plus d'argent pour pouvoir passer la frontière. Et il a fini par passer la frontière à Marnia, qui est la première ville algérienne, où là, il se retrouvait dans un pays où il respirait davantage, il était libre, puisque à ce moment-là, Marnia, c'était la France. Et maintenant, il part sur Alger. Sur Alger, pour faire un petit peu un compte-rendu de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, à ces deux éducateurs, je dirais, d'exploration, qui l'ont aidé à mettre au point son rapport, qui a été un rapport qui, encore aujourd'hui, veut dire quelque chose dans la société géographique française. Donc, ça n'a pas été quelque chose d'anodin, ça a été vraiment un travail scientifique qui a servi à beaucoup dans le début du Maroc d'aujourd'hui. Et la question de Dieu, finalement, était rentrée dans son esprit. Il ne savait pas pourquoi ni comment. Et donc, il est revenu passer un moment à Paris, chez sa cousine. Chez sa cousine, qui lui fit rencontrer, comme on vous l'a Marie Bondy, qui lui fit rencontrer l'abbé Huvelin, dont on vous a parlé déjà plusieurs fois. Et donc, il est allé voir cet abbé Huvelin et il lui a demandé « Je voudrais connaître Dieu, alors donnez-moi des cours de théologie ou de catéchèse. » Et l'abbé Huvelin lui a dit « Avant que je ne te parle de quoi que ce soit, tu te mets à genoux, tu te confesses et après tu vas communier. Et après, on commencera à réfléchir à autre chose. » Donc c'est découvrant la miséricorde de Dieu qu'il va commencer à être percuté dans sa vie. Surtout qu'il voyait que sa cousine, Marie Bondy, était accompagnée par cet abbé Huvelin, qui la voyait se transformer, et il la voyait surtout donner un sens plénier à sa vie. Et donc il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Et alors la première étape, donc l'abbé Huvelin a commencé à lui faire un petit peu de catéchèse, mais il lui a dit, tu devrais aller voir en Palestine. Donc il est parti, quelque temps, faire un pèlerinage sur les pas de Jésus en Palestine. Là, il a découvert Bethléem, il a découvert Nazareth, il a découvert tous ces champs de cailloux et toute la pauvreté qu'il pouvait y avoir dans ces lieux-là. Et il s'est commencé à se poser vraiment la question de Jésus. Et il a rencontré là-bas aussi en Palestine, c'était à Nazareth, des religieuses, des clarisses, qui lui ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne seriez pas prêtre ?» Alors cette question d'être prêtre, il ne se l'était jamais posée, mais ça commençait à mûrir dans son esprit. Bon, alors être prêtre, il faut se préparer, il faut. Alors il est revenu en France, il est allé revoir sa cousine et sa sœur, et il a décidé, avec l'abbé Huvelin, d'aller à la trappe Notre-Dame-des-Neiges, dans l'Ardèche. Alors vous l'avez peut-être entendu parler, c'est malheureusement une trappe qui est en train de fermer. Mais cette trappe de Notre-Dame-des-Neiges, il a rencontré là le père abbé, et il lui a demandé, est-ce que je pourrais devenir trappiste? Et le père abbé, on va l'écouter, il l'a fait rentrer doucement dans la vie monastique, Et puis, ils ont décidé ensemble, il a fait son noviciat, hein, il a décidé ensemble de commencer son noviciat, de devenir trappiste à Aiguebelle. Notre-Dame-des-Neiges. Et de là, il a trouvé que la vie à Notre-Dame-des-Neiges était beaucoup trop facile. Il lui fallait la pauvreté intégrale. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé et obtenu de pouvoir partir dans une trappe qui se trouvait en Syrie, à Agbès. Et dans cette trappe de Syrie, qui était tout à fait dans un monde musulman, même s'il y avait quand même quelques Arabes chrétiens dans cette région, hein, cette Agbès se trouve un petit peu, vous avez peut-être entendu parler aussi de Mar Moussa, hein, donc avec le père d'Orolio, un jésuite, hein, qui a été kidnappé par les Syriens, on ne sait pas où il est, hein, mais c'est dans cette même région, très pauvre, dans la montagne. Et donc, dans cette trappe, il a vécu du travail de ses mains, en enlevant les cailloux des champs pour pouvoir planter quelques légumes, hein, s'occupant un petit peu des pauvres du coin parce qu'ils n'avaient rien à manger. Hein. Donc, il a été en relation avec ce monde arabe. Alors, c'est important déjà de se dire, hein, que chez les Arabes, il y a des chrétiens. Hein. Et donc là, il y avait des chrétiens dans ce monde, il y avait des qui vivaient ensemble. Hein. Quand on parle du Moyen-Orient, hein, il y a tous ces Irakiens, ces Arméniens, ces Syriens, qui sont chrétiens. Et donc, ils ont été, plusieurs fois, hein, ces chrétiens ont été, c'était déjà à l'époque, hein, ont été un peu matraqués par les bandits musulmans du coin. Et donc, la trappe a essayé de les protéger. Et même à un moment, ils ont cru que pour eux, c'était leur dernière heure. Ils étaient prêts à partir, mais ils sont restés. Et donc, tout ça a été pour lui quelque chose de prégnant. Et ce qui est... Enfin, c'est des coïncidences pour aujourd'hui, mais la dernière attaque qu'ils ont reçue à Agbès, c'était le 25-26 mai, qui est le moment, qui est la nuit, où les trappistes de Tibarine ont été pris. Donc il y a des liens qui se font. De même que nous savons qu'il est mort le 1er décembre, mais le 1er décembre, c'est aussi le jour où frère Christian de Tibarine a signé son testament. Donc, si vous voulez, c'est les mêmes situations, hein, dans des mondes difficiles, au cœur de l'islam, hein, où ces chrétiens ont voulu absolument rester par amour du pays et par amour du Seigneur. Donc, tout ça fait que Charles serait très proche aujourd'hui des moines de Tibarine. Et si Tibarine a existé, c'est à cause de Charles, hein, parce que en particulier Christian de Chergé, voulait essayer de reproduire la vie de Charles de Foucault au cœur de l'Algérie d'aujourd'hui, hein, dans le bled. Bon, donc il est donc reparti d'Agbès, ça devenait trop dangereux, et il s'est arrêté en Palestine. Et s'arrêtant en Palestine, il est allé à Nazareth. Parce que pour lui, Nazareth était quand même quelque chose, déjà, il avait commencé à comprendre que Nazareth était le début de beaucoup de choses, hein, et en particulier le début de l'incarnation. Hein. Et à Nazareth, il a voulu vivre là aussi la pauvreté la plus totale. Et donc, il s'est fait embaucher par les Clarisses de Nazareth, hein, pour être leur homme à tout faire. Et alors, un homme à tout faire qui savait rien faire. Donc, en particulier, il était le jardinier, mais il ne savait même pas ce que c'était qu'une salade. Donc, il a fait des petites choses. Mais surtout, il a voulu vivre dans la plus grande des pauvretés. Et donc, il n'a pas voulu de lit. Il s'est contenté, comme chambre, de prendre le cagibi où on rangeait les outils. Et il dormait là, sur place. Et une fois qu'il avait fini son travail, il allait à la chapelle pour adorer le Saint-Sacrement. Hein, donc tout ça, c'est sa vie de pauvreté, sa vie d'incarnation dans un monde, là c'était le monde de la pauvreté la plus totale, pour découvrir ce Seigneur. Hein, parce qu'il s'était dit, j'ai découvert le Seigneur, maintenant, il faut que je fasse tout pour vivre avec. Hein, donc, pour lui, c'était ce chemin de pauvreté, ce chemin d'incarnation qui était le plus important. Mais il avait quand même toujours maintenant dans la tête cette idée du sacerdoce, hein, de devenir prêtre. Donc, il est revenu à la trappe de Sainte-Marie-des-Neiges et il a demandé à au supérieur de la trappe, est-ce qu'il pourrait devenir prêtre ? Donc, ils ont réfléchi et il a commencé à faire des études en vue du sacerdoce, en lien avec le diocèse de Viviers, en Ardèche. Et donc là, il a découvert davantage ce qu'était la théologie, mais surtout, il a découvert davantage ce qu'était une expérience spirituelle, puisque l'importance des trappistes, c'est de baser leur vie sur la prière et le travail. Donc, il a fait 3 ans d'études, ici, entre Viviers et la Trappe, pour devenir prêtre. Et il a été ordonné prêtre par l'évêque de Viviers, Monseigneur Bonnet, qui l'a ordonné prêtre. Mais alors, ce qui est un petit peu spécial dans son parcours à lui, c'est que vous savez qu'un prêtre, pour être ordonné, doit dépendre d'un évêque. De même qu'un évêque doit dépendre du pape, ce qu'on appelle un cardinet. Donc, tandis que là, il a été ordonné par l'évêque de Viviers, qui lui a permis de partir en Algérie. Donc, il ne dépendait pas de l'évêque, il ne dépendait plus de l'évêque de Viviers. Mais ce qui est important dans la vie de Charles, c'est qu'il a toujours voulu dépendre de ses supérieurs. Donc là, il a toujours voulu, quand il aura des décisions à prendre après, il a toujours voulu demander à l'évêque de Viviers qu'est-ce qu'il en pensait. Il a toujours voulu demander aussi à l'abbé Uvelin qu'est-ce qu'il en pensait. Et plus tard, quand il était en Algérie, il a toujours voulu demander à l'évêque d'Alger qu'est-ce qu'il en pensait et au supérieur des Pères Blancs qu'est-ce qu'il en pensait. Et je crois que ça, c'est très important pour aujourd'hui. On ne fait pas, dans la mission de l'Église, on ne fait pas sa petite cuisine à soi. On est envoyé par un évêque. Donc si un prêtre ne dépend pas d'évêque, qu'est-ce qu'il fait ? De même qu'un évêque est envoyé par le pape. S'il ne veut pas suivre, obéir au pape, qu'est-ce qu'il fait ? Je crois que tout ça, c'est important pour le monde d'aujourd'hui. De rentrer dans cette dynamique que, où que je sois, quelle que soit la responsabilité que j'ai, je dépends d'un autre. Je suis envoyé par un autre. Et par un autre qui est en lien avec le Seigneur. Alors, c'est un point fondamental de Charles de Foucault. Un autre point fondamental de Charles de Foucault aussi, c'est son lien avec sa famille. Donc, il y a sa sœur et sa cousine, Marie de Bonty et Madame de Blic, qui ont été très proches de lui, et en plus, sa famille qui faisait quand même attention, la famille s'apercevait qu'il faisait quand même un peu n'importe quoi de son argent. Et donc, sa famille l'a mis sous contrôle judiciaire, sous tutelle, si vous voulez, pour qu'il ne puisse pas dépenser son argent n'importe comment. Donc, mais lui a toujours voulu ce lien, et il l'a respecté. Donc je crois que c'est aussi un point important de la vie de Charles, ce lien avec sa famille, ce lien avec sa famille, ce lien avec l'Église. Et donc une fois ordonné prêtre, Charles est parti en Algérie. Il avait été séduit par tout ce monde musulman, donc il a voulu repartir en Algérie. Et en Algérie, il s'est mis à la disposition de l'évêque d'Alger. Et Alger, c'était un petit peu encore trop facile. Et donc, il a demandé à l'évêque d'Alger de pouvoir aller dans le désert, au Sahara. Et donc, d'aller dans le désert pour vivre une présence. Une présence, non pas n'importe laquelle, mais une présence eucharistique, une présence fraternelle, une présence de l'amour de Jésus-Christ au cœur d'un monde de l'islam, qui n'avait jamais rencontré un prêtre. Qui ne savait pas qui était Jésus-Christ. Donc, il a eu l'autorisation d'aller dans le Sahara, Et comme dans son esprit, il avait toujours la perspective du Maroc. Et donc, il a voulu s'installer le plus près possible de la frontière algéro-marocaine dans le désert, à Beni Abbès. Beni Abbès qui se trouve à 1400 km d'Alger. Et donc là, il a construit un petit ermitage à côté d'un village. Et il a mis d'abord là où il pouvait dormir, où il pouvait s'occuper, une chapelle. Et puis un petit... et tout ça, il l'a fait en dur, alors que les maisons autour de lui étaient en palmier, hein, en branches de palme plutôt. Hein, mais pour amadouer les habitants du coin, il a construit à côté de sa maison en dur une petite cabane en palme. Et c'est là qu'il recevait les habitants de Beni Abbès. Donc il les accueillait, il les écoutait, il leur apportait ce qu'ils demandaient. Hein, donc tout ça, ça a été une manière pour lui de rentrer en contact avec cette population. Hein, donc il ne voulait pas être là pour apporter de l'argent ou apporter des choses, mais il voulait découvrir quel était ce peuple, qui était ce peuple. Hein. Et donc il a parlé avec eux, même s'il baragouinait seulement quelques mots, hein, pour découvrir d'abord leur vocabulaire, et en même temps pour découvrir un petit peu leur histoire, leur culture. Et c'est comme cela que doucement, Charles est rentré dans la connaissance très profonde du peuple Touareg. Et ce qu'il a fait, ce travail très précis qu'il a fait, est encore un travail qui sert aujourd'hui. Il a fait en particulier 4 dictionnaires français Touareg, de 1000 pages chacun, qui sont encore en activité aujourd'hui, hein, pour permettre aux ethnologues d'aujourd'hui de pouvoir rentrer dans cette culture touareg. Et alors, il avait quand même encore dans son esprit, un esprit, je dirais, très français, très utilitaire. Hein, il s'était fait un petit jardin dans lequel il plantait ses légumes, il montrait aux gens comment faire, hein, parce que les Touaregs, ben, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir leur petit jardin ou tout ça. Hein, donc, il leur a appris à travailler un petit peu à la manière, je dirais, occidentale, ce qui n'était pas ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là. Hein. Mais en même temps, il avait dans l'esprit un projet missionnaire. Il dit, je suis tout seul, mais si je veux travailler pour le Christ, il faut qu'on soit plusieurs. Hein. Et donc, il a essayé d'avoir des disciples qui puissent venir avec lui. Mais à chaque fois, il a essayé d'en avoir 2, mais au bout d'un mois de vivre avec lui, ils sont partis. Il était tellement radical, hein, que les gens ne pouvaient absolument pas vivre avec lui. Hein. Donc, il s'est retrouvé toujours avec cette idée, il me faut quelqu'un, mais les gens n'arrivaient pas à vivre avec lui. Surtout qu'il s'était donné une règle de vie très précise, et très dur, hein, avec des temps de prière très forts, avec une nourriture très peu, avec du temps de sommeil encore très peu, et des temps d'adoration à multiplier. Hein, donc les personnes qui ont essayé de vivre à son régime n'y ont pas, sont reparties au bout de quelques jours. Donc il se retrouvait toujours tout seul. Mais il avait toujours cette perspective du Maroc. Bien. En même temps, à Beni Abbès, qui n'était pas encore trop loin d'Alger, c'était comme 1400 km, hein, il y avait pas mal de militaires, hein, surtout que c'était avec la frontière marocaine. Et donc, il avait un petit peu, je dirais, comme paroissien, tous ces militaires, hein, à qui de temps en temps il célébrait la messe, ou bien avec qui il pouvait parler. Et donc, pour lui, c'était important, parce qu'à l'époque, un prêtre ne pouvait pas célébrer la messe s'il n'y avait pas quelqu'un avec lui, hein, que ce soit un enfant de cœur ou quelqu'un d'autre, hein, donc il ne pouvait pas célébrer la messe tout seul. Alors lui, qui était prêtre, s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Mais il était obligé, c'était la directive de Rome, hein, donc tant qu'il n'y avait personne, et en particulier aucun militaire, parce qu'évidemment, il n'y avait aucun Touareg qui était chrétien, hein, donc aucun militaire n'était là, il ne pouvait pas célébrer la messe. Mais il passait son temps à l'oratoire devant le Saint-Sacrement. Et tout ça, ça a été une grande mortification pour lui. Mais l'un de ses amis militaires, le général Lapérine, qui lui a dit « Tu devrais descendre encore plus bas, hein, à 1600 km de là, à Tamanrasset. » Tamanrasset n'est pas trop loin de la frontière malienne. Hein, donc, c'est-à-dire à tout à fait l'autre extrémité de l'Algérie. Et donc là, il s'est retrouvé avant de partir de Béniabès pour aller à Tamanrasset, il a reporté la question à l'abbé Huvelin, à l'évêque qu'il avait ordonné, à l'évêque d'Alger, au supérieur des Pères Blancs, qui leur ont dit ben, « allez-y ». Donc il est parti, et là encore, à pied ou en chameau. Et là, il y avait 1500 km à faire. Et il se retrouve à Tamanrasset, où il n'y avait que 4 cahutes. Donc il se dit « il faut que je m'installe ». Donc il a commencé par construire sa chapelle et sa petite maison en dur pour lui, et toujours la cahute en roseau pour accueillir les gens. Mais il y avait très peu de personnes, de ces nomades, qui voulaient se sédentariser. Bon, mais doucement, avec lui, ils ont pris le goût de pouvoir s'installer, ce qui fait que, à bord de Charles, je ne sais pas combien il y avait d'habitants, hein, mais aujourd'hui, une ville de Tamanrasset où il y avait 50 habitants quand Charles y était, est une ville de maintenant 100 000 habitants. Hein, 100 000 habitants, et dans lesquels il y a quelques chrétiens, parce que Tamanrasset est une étape plus ou moins forcée pour les migrants qui arrivent d'Afrique subsaharienne. Ils passent par là, hein, et ce sont ces chrétiens qui vont à Tamanrasset. Et alors à Tamanrasset, là, il n'y avait plus de militaires. Et donc, il ne pouvait plus célébrer la messe. Donc, ça a été une grande souffrance pour lui. Et à force d'écrire au pape à Rome, il a obtenu l'autorisation de pouvoir célébrer la messe tout seul. Donc, ça a été un grand cadeau qu'il a reçu de la part du Saint-Siège. Et là, il a continué à faire comme il faisait à Béniabès, visiter les maisons, écouter les personnes, et en particulier les anciens, pour qu'ils puissent comprendre quelle était l'histoire de ces Touaregs. Où est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et en même temps, pour qu'ils puissent rentrer dans leur culture. Pourquoi ils mangeaient ça, pourquoi ils ne mangeaient pas ça, hein, pourquoi ils se déplaçaient d'un point à un autre. Hein, donc ils voulaient trouver tous les petits détails de la vie de ces habitants. Et qu'il a récolté jour par jour. Là, il n'avait plus ses dessins à faire puisqu'il était toujours au même endroit, mais tous les soirs, il notait tout ce qu'il avait entendu. Donc, ce qui fait que tout ce qu'il a fait est un ensemble de documents qui ont permis de connaître ce qu'étaient les Touaregs. Donc, il n'en a converti aucun, mais il est devenu ami, il les connaissait vraiment dans le fond de leur cœur. Et c'est de là aussi qu'est venue une seconde conversion dans sa vie, qui, je crois, est capitale, parce que jusqu'à présent, il avait de l'argent. Donc, pour se faire des amis un petit peu, il donnait de l'argent à droite et à gauche. Bon, c'est ce que l'on fait d'habitude. Mais, un jour, il est devenu malade. Il était proche de la mort, il a été atteint du scorbut, hein, parce qu'il y avait une grande sécheresse, il n'y avait plus de verdure à manger, il n'y avait presque plus rien à manger et à boire. Et alors il ne pouvait même plus bouger. Et alors ce sont les femmes Touareg qui ont pris toutes leurs chèvres qui leur donnaient du lait pour tous les enfants. Les enfants qu'ils avaient. Et donc, tout ce lait de ces chèvres, elles l'ont donné à Charles. Et donc, Charles a ressuscité. Et je dirais, c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il pouvait et qu'il devait recevoir des autres. Ce n'est pas lui qui va distribuer à tour de bras, hein, recevoir des pauvres, des plus pauvres. Hein. Et je dirais que cela lui a donné une nouvelle ouverture sur le monde, en disant que le chrétien, ce n'est pas celui qui fait du bien à droite ou à gauche. Le non-chrétien, peut aussi très bien faire du bien. Et je crois que là, c'est important pour lui, et dans toute la théologie que l'on peut faire aujourd'hui, de se dire que le bien, ce n'est pas la spécificité du chrétien. Le bien se trouve dans le cœur de tout homme. Et nous, nous avons à accueillir ce bien d'où qu'il vienne. Et c'est ça qui est important dans nos... Je dirais, quand on travaille dans des pays entièrement musulmans, être là tout simplement, en se disant que ces musulmans avec qui on travaille, que l'on écoute, ils ont quelque chose à nous dire. C'est différent de ce que l'on fait d'habitude, mais ils ont quelque chose à nous dire, même de Dieu. Leur manière de rencontrer Dieu, c'est vrai qu'un musulman, il va pas m'expliquer ce qu'est la Sainte Trinité, mais un musulman va pouvoir m'expliquer ce qu'est le sens de l'autre, ce qu'est l'amour, ce qu'est la paix. Donc ne rentrons pas dans toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui avec certains musulmans en Europe, parce qu'il y a des musulmans qui sont passionnants, et avec qui on vit des amitiés très solides et très fortes, et des musulmans à tous les niveaux. Et je crois que c'est là que Charles veut dire quelque chose à l'Église en ce moment-là, que l'autre, différent de moi, a une part de vérité. Il n'a pas toute la vérité, mais il a une part de la vérité. Et il va m'aider à rentrer, à découvrir mieux quelle est ma foi. Et je dois avouer que, ayant vécu, je dirais, plus de la moitié de ma vie en monde musulman, me retrouvant maintenant dans un pays soi-disant chrétien, j'ai de la chance d'être dans une paroisse quand même qui est très vivante, mais je me dis que dans cette paroisse très vivante, il y a 9 dixièmes des personnes que je ne vois jamais, que l'on ne voit jamais. Ces personnes qu'on ne voit jamais, ils ont quelque chose à me dire de Dieu. Donc comment je vais les rencontrer, comment je vais découvrir ce qu'ils vivent, pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça, j'ai un tas de questions à me poser par rapport à la vie de l'autre. C'est pas parce qu'il vient à l'église que c'est fini, il est condamné. Il est différent, point. Donc comment cette différence va pouvoir m'aider à continuer à vivre et à découvrir de plus en plus Jésus-Christ. Et alors évidemment, ça change beaucoup de perspectives. Dans le sens que, quand j'étais au Maroc, tous les ans, le Saint-Siège me demandait des statistiques. Et alors, il me demandait « Combien est-ce que vous avez fait de baptême cette année ?» Je disais « Zéro. » « Combien vous avez fait de mariage ?» « Zéro. » « Combien vous avez fait de confirmation ?» « Zéro. » J'étais un évêque nul. Bon, ceci étant, j'ai eu de la chance, grâce aux étudiants subsahariens, de pouvoir quand même faire des baptêmes, des mariages et des confirmations. Mais par rapport au monde, je dirais, autochtone, je n'ai pas fait un baptême. Et alors c'est là aussi que certains prêtres et même certains évêques ne me comprenaient pas quand je leur disais que je me refuse à baptiser quelqu'un au Maroc, à baptiser un Marocain au Maroc. Parce que si je le baptisais, il était chassé de sa famille, chassé de son travail, et je ne pouvais pas l'accueillir à l'église. Donc un chrétien tout seul au cœur d'un monde musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ça ne veut pas dire que je me refusais de parler de Jésus avec certains. Je les appelais Nicodème parce qu'ils venaient plutôt le soir me voir. Mais on parlait de Jésus tout simplement. Mais je n'avais pas le droit de leur donner une Bible ou un évangile. Alors que, c'est des lois qui sont dépassées, puisque maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton et on a tout l'évangile. Mais c'était la loi, si vous avez donné un évangile à quelqu'un, vous risquez d'être expulsé. Donc, je crois qu'il y a respect pour les gens. Et puis en même temps, je crois qu'il était important, en tant qu'évêque, de rester dans le pays. Je ne pouvais pas me permettre d'être expulsé. Donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire que ce n'est pas facile à comprendre. Et je me rappelle ma dernière visite à Glemina à Rome, donc parce qu'on a une vingtaine d'écoles catholiques au Maroc, qui sont tous les directeurs sont des musulmans, tous les enseignants sont des musulmans, tous les élèves sont des musulmans. On n'a pas le droit d'enseigner l'histoire des religions, ça serait faire du prosélytisme, mais on enseigne le Coran parce que c'est une matière d'examen, hein, mais nous étions d'école catholique, l'école Charles de Foucault, l'école Sainte-Marie, l'école Notre-Dame de toute grâce. Hein, mais j'expliquais tout ça à un cardinal à Rome. Alors je lui ai dit, ben voilà comment fonctionnent nos écoles. Et alors à la fin de mon explication, il me demande combien de baptêmes vous faites par an. Excusez-moi, éminence, j'en fais zéro. Bon, je recommence et à la fin de cette deuxième explication, il me demande à quel âge vous faites la confirmation. Ah, je dis éminence, vous n'avez rien compris. Je vous donne le livret de notre projet éducatif. Quand vous aurez du temps, vous le lirez. Et puis on a continué sur autre chose. Hein, mais pour vous dire que ce que l'on vivait, c'est vrai, n'est pas compréhensible par tout le monde. Hein. Et donc, même des prêtres qui arrivaient là-bas se disaient « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Même des évêques arrivant là-bas me disant « Mais tu perds ton temps. » Hein. Alors que je crois que c'est le fondement de notre vie chrétienne, hein, c'est d'être des témoins. Des témoins de l'amour du Christ. Et un témoignage qui marche, qui marque. Hein. Par exemple, nous avions c'est toujours dans le sens de Charles de Foucault, hein, nous avions une trappe à mi-delta, donc au cœur de l'Atlas, hein, où il y a 6 moines, et puis on en a parlé il n'y a pas longtemps avec la mort du dernier de Tibarine, hein, le frère Jean-Pierre, hein, donc il vivait là-bas. Et bon, quand j'allais les visiter, il y avait des gamins qui jouaient aux billes devant la porte, ou bien qui jouaient au foot devant la porte, et au moment où j'allais sonner, ils me disent « Ne sonne pas maintenant, ils sont avec leur Dieu ». Alors, pour vous dire que combien la prière marque les musulmans. Pour eux, ça veut dire quelque chose. Hein, et que des chrétiens qui pratiquent, hein, dans le monde de l'islam, sont des chrétiens qui seront respectés. Tandis que ceux qui se disent chrétiens et qui font n'importe quoi, ceux-là, ben, on fera n'importe quoi avec eux. Hein, donc, si vous voulez, je crois que le témoignage est quelque chose de capital. Hein. Donc, ce père de Foucault, donc, est arrivé à Tamanrasset, a construit toute sa communauté, tiré ses relations à Tamanrasset, en allant chez les uns, chez les autres, hein, alors en faisant quand même attention, parce qu'il faut faire attention à la culture, il est homme, donc il ne pouvait pas aller dans la tente d'une famille où il n'y avait que la femme. Hein, c'est pour ça qu'il aurait voulu avec lui, et qu'aujourd'hui, dans le Sahara, dans l'église, il y a plusieurs communautés de religieuses. Les religieuses peuvent aller pendant la journée dans les maisons où il n'y a que la femme, tandis qu'un prêtre ne pourrait pas y aller. Ça poserait trop de questions. Donc, Charles Foucault a réussi à s'amadouer pour ce monde. Et à côté de Tamanrasset, il avait besoin de temps en temps de prendre du temps. Alors, vous avez peut-être entendu parler aussi de cette montagne Lhasécrème, hein, qui est une montagne à côté de Tamanrasset, où il y a un ermitage. Un ermitage qui est à 1000 et quelques mètres, hein, donc où là, il y avait la tranquillité la plus totale. Donc, il avait construit cet ermitage pour aller de temps en temps se ressourcer, se reposer, et essayer d'être un peu seul avec Dieu. Hein, donc voilà cette traversée de vie, hein, de Charles. Mais un 1er décembre, un jour, c'était pendant la guerre, c'était en 1916, hein, donc quelqu'un a frappé à sa porte, et au moment où il l'a ouvert, il y a un coup de feu qui a tué Charles. Hein. Bon, alors qui c'était? C'était, rappelons-nous, que bon, l'Algérie, si vous voyez le Sahara, ça va en pointe vers le Mali, hein, et à côté vous avez la Libye, et la Libye était une puissance de l'Axe. Hein, était en lien avec l'Allemagne. Hein, donc, est-ce que c'était des Sénoussis, est-ce que c'était des traîtres, est-ce que je ne sais pas. Hein. Donc, le fait est qu'il est mort, là, hein, et qu'il est resté là. Hein, ce sont que des soldats qui l'ont découvert après quelques... Non, ce n'est pas des soldats, hein, c'est des amis qu'il avait réussi à se faire, hein, qui ont prévenu des militaires qui passaient par là, et qui ont prévenu aussi l'Église, hein, que le marabout, hein, puisque le prêtre pour eux c'était le marabout avait été tué. Et alors dans la mentalité de Charles aussi, excusez-moi je reviens tout petit peu en arrière, hein, il avait quand même une mentalité de, ben, je dirais de l'époque, hein, il aurait tellement voulu que les Touaregs prennent un petit peu de sens européen. Donc, il a emmené avec lui pendant des congés en France pour visiter sa famille, emmener deux ou trois amis très chers, pour qu'il découvre qu'est-ce que c'était qu'une famille chrétienne, pour qu'il découvre aussi qu'est-ce que c'était que l'éducation en Europe, pour qu'il découvre aussi qu'est-ce que c'était le travail en Europe. Mais tout ça, c'était... Bon, ils ont fait un bon voyage, c'est vrai, ils ont été un peu changés de climat, changés d'air, mais ça ne les a pas apprivoisés plus. Hein, pour eux, ils étaient avec leurs moutons, avec leurs chameaux, hein, pour vivre, et ça leur suffisait grandement. Hein, donc, si vous voulez, c'est tout ça qui est... Parce que Charles n'a pas eu le souci, enfin, n'a pas eu le souci, hein, c'était pas le moment, hein, de pouvoir faire de l'éducation. Hein, alors que je crois que très profondément, hein, l'éducation est quelque chose de fondamental pour faire décoller un pays. Donc là, il n'a pas pu, il n'a pas su. Hein. Il n'a pas su faire l'éducation et ou faire des écoles ou des choses comme ça. Ben, de toute façon, tout seul, il ne pouvait pas. Hein. Donc, il est parti vers le Seigneur. Hein, et donc, maintenant, il a été canonisé, béatifié en 2005. Et il va être canonisé, donc déclaré saint, le 15 mai prochain.
La rencontre des croyants et prieurs musulmans. Vous venez de suivre une conférence de Mgr Vincent Landel de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram et Bétharramite, archevêque émérite de Rabat au Maroc, une conférence enregistrée le 10 février 2022 à Pau lors d'une soirée proposée par la paroisse du Christ Sauveur.